BSR Apéro.
Alors nous avons le grand plaisir d'accueillir Madame Amanda Auriol, une jeune auteure qui vient nous partager ses expériences au sujet de la dyslexie, sujet qui concerne d'ailleurs une part grandissante de nos auditeurs, de nos abonnés à la BSR. Tout comme le handicap de la vue, la dyslexie rend difficile l'accès au texte et c'est pourquoi les livres audio sont une aide réelle quand on connaît ce trouble. Amanda pourra certainement témoigner, puisqu'elle-même est abonnée à la BSR en tant qu'auditrice. Née à Lausanne en 1993, diplômée en histoire de l'art à l'Université de Lausanne, elle entreprend ensuite des études en ergothérapie. Dans son livre « Confession d'une dyslexique » publié en 2018 aux éditions des Sables, elle confesse donc avec humour ses difficultés d'apprentissage et explique le fonctionnement de la dyslexie en mettant le lecteur à sa place. Le témoignage de son parcours est empreint de courage. Amanda Auriol a également créé un blog hébergé par le journal Le Temps, dyslexie2.guide-de-survie, qui complète en quelque sorte son livre et apporte des anecdotes souvent très cocasses et également des conseils pratiques pour se faciliter la vie. Donc avant de lui donner la parole, je précise aussi que Madame Cathy Gauchat, présidente de la section vaudoise de l'association Dyslexie Suisse Romande, ADSR, est disponible à la fin de la conférence pour des informations complémentaires. Je précise également qu'on ne va pas lire la liste de toutes les personnes ici présentes aujourd'hui, car on est très nombreux. Par contre, on se tient à disposition à la fin. Si vous voulez parler à quelqu'un en particulier, on est là pour vous dire qui est présent. Voilà, donc je remercie beaucoup Amanda Auriol d'être présente aujourd'hui et je lui laisse la parole.
Bonjour. Ça va? Oui. Bonjour à tous. Merci beaucoup d'être venus. Juste pour rebondir un petit peu sur ce qu'elle a dit, finalement, j'ai pas pu entrer en école d'ergothérapie parce que les examens, j'étais pas dans les 50 premiers sur les 250 qu'on était. Du coup, malheureusement, j'ai pas pu commencer l'ergothérapie. Mais je vais me lancer dans des études pour faire éducatrice de la petite enfance. J'ai fait un stage d'une année et j'ai adoré. Du coup, je commence l'année prochaine les études. Sinon, tout était juste. Donc, je voulais juste vous dire pourquoi j'avais écrit le livre. Donc, au tout début, c'est parce que je rentrais une fois de l'université, désespérée parce que j'avais beaucoup... Enfin, j'étais allée parler à beaucoup de professeurs si c'était possible d'avoir les aménagements. Parce que, en fait, à l'université, chaque prof est un peu maître de sa branche. Et il faut discuter avec eux pour pouvoir avoir des aménagements. Et il y a plusieurs professeurs qui n'étaient pas du tout réceptifs. Du coup, j'étais rentrée un après-midi assez déprimée. Et ma maman m'a dit que j'écrive un petit peu pour me décharger de tout ça. Donc, j'ai commencé à écrire le livre, en fait, que pour moi. C'était pas du tout prévu qu'il soit publié au début. Et ensuite, je l'ai fait lire à ma maman. Et ma maman l'a dit, mais il faut le publier, il faut le publier. Ça peut aider des gens, il faut le publier. D'ailleurs, elle est au fond. Si Et puis, au début, j'étais un peu réticente. Et à l'université, je faisais un atelier d'écriture parce que j'adore écrire. Et je l'ai fait lire à ma professeure d'écriture qui m'a dit qu'il était génial et qu'il fallait aussi le faire publier. Donc, j'ai commencé à écrire des lettres, à envoyer mon manuscrit. Au début, j'ai eu que des réponses négatives. Mais ce qui était super pour moi, c'est que deux maisons d'édition l'ont corrigé quand même en disant que ça pouvait être prometteur. Donc pour moi, c'était déjà une petite victoire. Et en 2016, je suis allée au salon du livre à Genève. Et en fait, avec mon manuscrit, on est allé donner mon petit manuscrit à toutes les maisons d'édition qu'on trouvait là-bas. Et je suis tombée sur Huguette Gino, qui a créé l'édition des Sables. Et on a discuté, et elle m'a dit de lui donner mon manuscrit. Et je ne sais plus si c'était 2 ans après. Voilà. Et 2 ans après, à Noël, en fait, j'ai reçu une lettre dont je ne m'attendais absolument pas. Et en fait, ma maman a commencé à la lire avec moi. Et comme je lis très lentement, elle s'est mise à pleurer. Et moi, j'étais là, mais qu'est-ce qui se passe? Pourquoi elle pleure? Et j'ai commencé à lire en diagonale. Je ne comprenais pas ce qui se passait jusqu'à ce que je vois qu'elle acceptait de me publier. Et là, alors, ça a été vraiment un feu d'artifice. J'ai pleuré. C'était, franchement, ça a été génial. Il fallait simplement que je rajoute des anecdotes. Et en fait, j'en avais, pendant 2 ans, en fait, j'en avais tellement à dire que ça n'a pas été un problème.
Finalement, j'ai bien fait de mettre 2 ans.
Oui, c'est vrai. Et j'en ai encore énormément. Alors, peut-être, qui sait, je vais peut-être écrire un deuxième livre là-dessus. Parce que c'est vrai que j'aborde dans mon livre surtout ma scolarité, l'université, le permis de conduire, enfin, des choses un petit peu niveau professionnel, mais les anecdotes de vie, j'en ai un paquet, je les ai pas vraiment citées dans ce livre. Du coup, je me dis que suivant comment, peut-être je pourrais écrire plutôt sur tout ce qui se passe à côté dans ma vie privée par rapport à la dyslexie. Et je ne sais pas si je peux lire quelques passages, peut-être, du livre. Par contre, ça va être compliqué avec le micro. Je vais essayer de lire avec le micro. Alors, le premier passage, en fait, c'était à l'école enfantine. Ça a été une des premières fois où je me suis confrontée à ma dyslexie. Je ne savais même pas que j'étais atteinte de ça. Donc, c'était à l'école enfantine. Je me souviens comme si c'était hier. Un après-midi, des crayons de couleur, une fiche avec un gros poisson dessiné dessus, qu'on appelait poisson arc-en-ciel, et qui nous suivait dans tous nos exercices. J'ai eu envie de sortir de l'eau ce jour-là et de le voir galérer à survivre dans un monde qui ne comprenait pas qu'il ne pouvait pas respirer l'air. Sale bête avec sa petite bouche en cul de poule. La maîtresse explique. Sur la feuille, il y a des points devant le poisson. Il faut que vous fassiez des bulles en reliant les points sur eux-mêmes. Je prends les couleurs, toute contente, commence à entourer les points. Je vais vers la maîtresse qui me dit « Non, tu dois relier les points sur eux-mêmes. » Recommence. Je reprends une feuille, je m'asseye, regarde mon autre feuille avec les fautes et je me dis que les bulles ne doivent pas être assez rondes. J'entoure les points sur eux-mêmes en les faisant le plus rond possible de toute mon âme. Je m'avance triomphante vers la maîtresse qui corrigeait l'exercice d'un autre enfant. Le garçon qui attendait devant moi avait fait des bulles vraiment ignobles. De gros ovales qui ressemblaient à des haricots. J'ai ri en moi en me disant qu'il allait devoir recommencer l'exercice comme moi. Son tour arrive. Je regarde le stylo s'approcher de la feuille comme un requin prêt à démolir son travail avec de grosses fautes rouges sang. Je compatis. Le stylo se pose sur la feuille et fait un vu. À ce moment-là, je panique. La sonnerie de la récréation sonne et mes camarades, qui avaient fini l'exercice depuis longtemps, sortent jouer. La prof me demande ma feuille. Je la lui tends. Elle soupire, me regarde d'une manière étrange et me dit « Amanda, c'est toujours faux. Je te l'ai déjà dit. Tu ne dois pas entourer les points, tu dois les relier sur eux-mêmes. Ça prend 5 secondes. Refais-le et tu pourras aller à la récréation. » Je reprends une feuille et je m'avance tout doucement vers ma place dans la classe vide. Comme si je me retrouvais dans un monde apocalyptique où je serai la seule survivante. Je m'assieds, je regarde la feuille et je ne comprends toujours pas ce que j'ai fait faux. Entourer le point sur lui-même, c'est ce que j'ai déjà fait 2 fois. J'entends les autres enfants crier et jouer dehors. C'est injuste. Pourquoi moi, j'ai pas le droit ? J'ose pas recommencer. Elles étaient parfaites, mes bulles. Je me mets à pleurer. Tant pis, je vais colorier le poisson. La maîtresse arrive et me voit pleurer. Elle s'adoucit. Elle prend le crayon et me montre le geste. Ah, j'ai compris ! Je fais l'exercice en 2 secondes. Je me lève. La sonnerie retentit. La récréation est finie. Monde cruel. Mon Kinder Pingu restera dans mon sac, tout triste de ne pas avoir été mangé. J'ai pris ce passage parce que, en fait, ce qu'il faut savoir avec la dyslexie, je pense que dans la salle, peut-être certains sont dyslexiques ou certains sont parents des dyslexiques. C'est surtout, il n'y a pas que la lecture, c'est aussi la compréhension des consignes. Comme on a on a vraiment tellement de possibilités pour nous, tout est possible. Du coup, les consignes, des fois, sont très dures à interpréter parce qu'on a 1000 solutions dans la tête. Et c'est vrai que moi, elle me disait de relier le point sur lui-même. Donc, pour moi, c'était juste d'entourer le point. Pour moi, c'est... Voilà, il était sur lui-même. Un petit point entouré de mon crayon, quoi. Et il y a eu plusieurs fois comme ça où j'ai eu des mauvaises notes. Parce que j'avais mal compris la consigne, mais quand je m'expliquais avec la maîtresse, elle me disait « Ah oui, de ce point de vue-là, oui, ça peut être... on peut l'entendre comme ça, donc oui, ça pourrait être juste, mais bon, c'est pas ce qu'on demandait. » Et du coup, c'est vrai que c'est très, très frustrant parce qu'on travaille énormément. Des fois, on travaille pendant des heures et des heures à la maison. Mon VOC d'allemand, par exemple, je le recevais 1 ou 2 semaines à l'avance parce que je devais le répéter à cause de l'orthographe. Et c'est vrai que des fois, on n'a pas la note qu'on voulait et ça nous... Voilà, on touche le fond. Mais bon, ce qui est pratique, c'est que comme on touche souvent le fond, après, on n'a plus qu'à remonter. je me dis, ça m'a forgé le caractère aussi. Mais c'est vrai que sur le moment, c'est vraiment pas drôle. J'avais un autre passage peut-être à lire où j'étais là, en fait, on allait découvrir que j'étais dyslexique, mais on ne le savait pas encore. Et c'est vrai que c'est ma maman qui nous aidait énormément pour les devoirs. Mon papa, c'était surtout les mathématiques. Bon, je ne suis pas plus forte en mathématiques, mais ça, ce n'est pas la dyslexie. Et elle nous apprenait l'alphabet en espagnol, parce que je parle l'espagnol aussi. Et elle avait un petit livre avec des images. Et du coup, chacun son tour. D'abord, elle apprenait à mon frère, à ma sœur. Puis quand c'était mon tour, c'était toujours une bataille. Et du coup, j'ai écrit un petit peu la fois où ça a vraiment explosé. Parce qu'on ne savait pas ce que j'avais et on a l'impression que j'étais juste bête, en fait. Alors, lorsque j'étais petite et que personne ne savait ce que j'avais, ma mère s'obstinait à nous apprendre l'alphabet avec un petit livre rempli de dessins pour aider à comprendre les lettres. Je l'ai rendue folle. Alors, A comme abeille, B comme baleine. Tu vois là, il y a une baleine. O comme orange. Je récitais, tout allait bien jusqu'à O. Puis surgissait le P. A, B, C, D, E, F, G, H, I, K, L, M, N, O, Q. Non, c'est P comme poil. Recommence, c'est pas grave. Je recommençais. A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L, M, N, O. Oui, après O, c'est quoi ? Q ? Non, c'est P, comme papa. Refais, ça va venir. A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L, M, N, O. Oui, O, et après Q. Le visage de ma mère en mode hulkien, qui tentait tant bien que mal de garder son calme. Je l'imaginais se transformer en un monstre qui crachait de la fumée par les oreilles et changeait de voix, une voix rauque qui disait « Si tu te trompes, je t'étrangle !» Je t'ai dit que c'était P, comme papa, papillon, pied, c'est un P. Allez, recommence. Je n'osais pas. Q et B étaient côte à côte dans l'alphabet. Et je ne voyais pas la différence. Mais comment expliquer ça? J'ai donc recommencé hyper concentré. A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L, M, N, O. Il y a un piège. C'est quoi? C'est laquelle qui vient d'abord, P ou Q? C'est la même lettre. O, Q. C'est un P! Qu'est-ce que tu ne comprends pas? C'est un P, pas un Q. Je me suis mise à pleurer. Elle a repris son sang-froid et finalement, j'ai réussi. J'ai répété plusieurs fois l'alphabet. Je me suis perdue. J'ai répété plusieurs fois l'alphabet jusqu'à P pour bien maîtriser et j'y arrivais. Jusqu'à ce que surgisse la lettre Q, la suivante. Je vous laisse imaginer. C'était l'alphabet, les jours de la semaine ont été un vrai calvaire pour moi à apprendre. Les jours de la semaine, d'ailleurs, c'est un extrait de mon livre aussi. J'arrivais pas à savoir. Et encore aujourd'hui, des fois, il faut que je réfléchisse vraiment pour savoir quel jour et où dans la semaine. Mais bon, maintenant ça va. À 27 ans, je sais, je sais mieux que l'alphabet mes jours de la semaine. Qu'est-ce que je peux dire d'autre? C'est j'avais pris 3 extraits. Mon livre a plusieurs anecdotes justement de l'école enfantine jusqu'à l'école de santé. J'ai pas écrit beaucoup de choses sur l'école de santé parce qu'en fait c'est une année propédeutique et ensuite on fait des examens d'entrée dans les différents secteurs physio, ergo. Et l'école de santé je l'ai réussi mais ça a été très difficile pour moi parce qu'on avait un doyen et c'est à lui qu'on devait parler de nos aménagements. Au début, il était super sympa. Il m'avait proposé un rendez-vous pour parler de tout ça. Et je suis allée avec ma petite feuille que la logo avait fait, avec l'heure supplémentaire, l'écriture grosse, enfin plusieurs choses, parce que chaque dyslexique a ses propres aménagements. Ils sont instaurés par la logo, suivant leurs difficultés. Et je me suis assise dans le bureau de ce monsieur. Et la première chose qu'il m'a dit, c'est dans les bachelors, on n'a pas d'aménagement. Donc, non, il m'a dit, dans les bachelors, on ne vous fera aucune faveur. Mais là, on est gentil, on vous laisse 15 minutes pour l'examen. Du coup, j'ai dit, bon, c'est déjà 15 minutes. Je suis quelqu'un de très positif. Donc, je me suis dit, c'est déjà 15 minutes, c'est bien. Mon premier examen, c'est des énormes auditoires au CHUV. Et on attendait tous dehors. Et je suis allée. Parce que une des surveillantes attendait. Elle m'a dit « Amanda Auriol, vous pouvez venir ». Donc je suis allée, je me suis installée. Il n'y avait personne dans l'auditoire. Je me suis dit « Génial, il n'y aura pas de bruit, je vais pouvoir commencer tranquillement ». Elle m'a fait attendre devant mon examen, elle m'a fait attendre. Et en fait, ils ont commencé à faire rentrer les gens. Et là, elle m'a dit « Vous pouvez commencer ». Donc pendant mes 15 minutes, j'ai dû me lever pour laisser passer des gens. Il y a des gens qui mâchaient derrière moi, il y en a des qui discutaient de leur week-end. Et moi, j'avais ces petites 15 minutes bruyantes pour essayer de me concentrer au maximum. Et l'examen, c'était une feuille avec des tout petits écrits. Et à côté, il y avait des cases où il fallait cocher. Et au bout d'un moment, le malheur est arrivé. Je me suis décalée de case. Et j'ai dû tout recommencer. Donc les 15 minutes n'ont servi à rien. Mais... j'ai réussi l'examen. J'ai réussi l'examen parce que j'avais énormément travaillé. Mais c'est vrai que pour dire que même encore maintenant, j'ai l'impression que l'école est plus au courant de ce qu'il faut faire ou est plus réceptive et met plus de choses en avant que l'université ou les écoles HES ou autres. J'ai une amie qui m'a dit qu'à la HEP, les dyslexiques n'avaient pas le droit d'aménagement. Parce que c'était des futurs profs et que c'était comme ça. Alors, je ne sais pas si quelqu'un fait la HEP ici et pourrait me certifier ça, parce que moi, ça m'a rendu folle. Mais ce n'est pas possible qu'à la HEP, on ne laisse pas d'aménagement pour les dyslexiques. Du coup, c'était vraiment... c'est dingue de se dire que même encore maintenant qu'on est adulte, il faut se battre pour avoir ce qui nous est... Enfin, ce qui nous est dû, oui, parce que c'est encore dur à... Moi, c'est très difficile pour moi d'aller vers les enseignants, les profs, nos formateurs, leur expliquer des choses comme ça. Enfin, des choses comme ça, leur expliquer pourquoi on a besoin d'aménagement. Et c'est très difficile de voir qu'encore maintenant, on a des murs, en fait. C'est... À l'université, j'avais certains profs qui reculaient en pensant que j'étais contagieuse. C'est quand même... C'est, je me dis, mais je suis pas malade. Non, c'est, voilà, ça fait partie de moi, quoi. Et sinon, il y a un autre sujet qui a été très difficile pour moi, c'est l'auto-école. J'ai mis 2 ans à passer mon permis, mais je l'ai réussi. Et c'est vrai que j'ai eu beaucoup de situations drôles avec mes profs d'auto-école parce qu'au début, je ne voulais pas leur dire que j'étais dyslexique. Je voulais réussir sans avoir à dire que j'étais dyslexique parce que souvent, je ne sais pas si tous les dyslexiques passent par là, mais moi, je sais que quand je me fais aider, je me fais tout le temps aider dans le sens on me lit mes textes pour les travaux, on corrige 10 000 fois derrière moi. Enfin, j'ai une aide quand même. J'ai toujours une aide. Et je me suis dit, cette fois, le permis de conduire, je ne vais rien dire. Et je voulais lire un extrait de mon livre où, justement, le fait de ne pas avoir dit que j'étais dyslexique a créé un moment très, très, très embarrassant. Et du coup, voilà, c'était le passage que je voulais vous lire. Donc, je vais essayer de le trouver parce que là. Alors, c'était mon premier prof de conduite. Alors, il faut savoir qu'il avait presque le même âge que moi. Enfin, presque. Il était à quelques années près tout aussi jeune que moi. Donc, c'était encore pire, la situation. Mon prof de conduite ne savait pas que j'étais dyslexique à ce moment-là. Je n'avais pas envie de le lui dire. Étant de nature têtue, je voulais me prouver à moi aussi, comme tout le monde, je pouvais réussir mon permis, sans avoir besoin de mentionner mon handicap. Si j'ai un conseil, ne gardez jamais un élément de ce genre pour vous. Il finit par se montrer de lui-même comme les mensonges. Et au pire moment, je conduisais bien, j'étais fière de moi, et il a fallu que je l'ouvre. Est-ce que je peux te poser une question ? Mon prof répond forcément oui. Comment fait-on pour mettre le Tompax ? Je n'avais jamais vu une tête aussi choquée. Les mots ont mis une éternité à sortir de sa gorge. Quoi ? Avec un peu d'hésitation, je répète. On met comment le Tompax ? Tu sais, le truc pour maintenir la vitesse sans avoir à appuyer sur la pédale. Il a été saisi d'un fou rire. Ma gêne a grandi petit à petit quand j'ai percuté. Tu veux parler du tampomate ? Tampax. J'avais bien dit tampax. Cette petite fusée de coton qu'on ose à peine exhiber quand c'est notre tour, sous le regard compatissant de la caissière qui semble dire « Ah, je sais ce que c'est, courage. » Ça, c'est un des moments les plus gênants, je pense, de ma vie, franchement. Je me souviens exactement où c'était près de Cossonay. C'était une longue ligne droite et en fait, j'en avais marre de garder le pied sur la pédale à la même vitesse. C'était un piège. Et voilà. Et ce genre de petit lapsus de mots, ça m'arrive souvent. Une fois, on était au restaurant chinois avec mes meilleures amies d'enfance pour l'anniversaire de Magali, qui est ici. Et on mangeait des sushis et il y avait du gingembre. Et moi, je voulais faire mon intéressante et j'ai voulu dire que le gingembre était aphrodisiaque. Et il n'y avait pas beaucoup de bruit dans la salle et j'ai fait « Eh, le gingembre, vous savez qu'il est hermaphrodite ?» Et les gens, et tout le monde m'a regardé un peu « Quoi ? Mais non !» Enfin, pour moi, aphrodisiaque et hermaphrodite, ça ressemble tellement parce que il y a tellement de lettres qui se ressemblent dans ce mot, enfin... Et une autre fois que je peux vous dire aussi, c'était un contrôle de la vue. J'étais avec une amie, enfin, qui devait me prendre des notes à l'école, et moi, je suis allée faire un contrôle. Et on m'a dit que j'étais hypermétrope. Et quand je suis arrivée en classe, après ce petit congé, ma meilleure amie en train de rire, j'ai mon amie qui m'a dit « Ah, alors qu'est-ce qu'il t'a dit le... Voilà, l'ophtalmologue, merci. » Et je lui ai dit, alors, il a dit que j'étais misanthrope. elle m'a regardé, elle fait, mais arrête, c'est pas vrai. Puis je dis, mais si, il m'a dit que j'étais misanthrope. Elle me dit, et puis je me suis engueulée avec elle parce que elle soutenait le fait que j'étais pas misanthrope. Et je dis, ah, si, si, si. Alors, je pourrais vous en raconter mille, mais du coup, là, je sais pas s'il y a des questions, si vous avez des questions. Ou... Sinon, je peux me déplacer avec.
Cette fois, ça va, c'est bon. Alors, c'est Monique Cosandet. Je vous remercie pour votre discussion, enfin, votre exposé. Et puis, je crois qu'entre les handicapés de la vue et vous, il y a certaines similitudes, notamment, par exemple, qu'il faut lutter et puis faire valoir ses droits, notamment... Au niveau des examens, par exemple, ou en classe aussi, quand on est petite et puis qu'on doit dire qu'on voit pas au tableau noir. Enfin, ça, c'est, on a un peu les, on est un peu cousins, oui. Si on veut bien. Par contre, ce que j'aimerais savoir, c'est comment on a découvert que vous étiez dyslexique. Est-ce qu'il y a eu des tests? Parce que vous disiez que l'histoire du P et du Q, c'était juste avant qu'on découvre que vous étiez dyslexique. Donc, comment ça s'est fait?
Alors, l'alphabet, j'étais encore un peu jeune, mais moi, je mets ma scolarité tout dans un panier. On a découvert que j'étais dyslexique au moment de transition. À l'époque, c'était la sixième année. Maintenant, je ne sais plus si c'est la septième année maintenant. En fait, c'est la huitième année. Alors, la huitième. Une des deux. C'est tellement compliqué maintenant, je comprends.
La septième.
Ok, alors voilà.
Enfin, ça fait la troisième, quatrième, cinquième, sixième.
Septième. Ouf, ah ouais, ok. Ok. J'avais 12, 13 ans, ouais. Et en fait... J'ai eu une première, un premier examen, comme on appelle, enfin, ouais, examen avec la logopédiste d'école, qui me faisait voir des images avec un chat, et elle me demandait où il était situé sur l'image. Je disais que je suis pas bête, j'ai envie de dire, dans le sens que je montrais du doigt, je disais ben il est là, il est là, il est là. Puis du coup, elle a dit que j'étais pas dyslexique. Donc après. Ben, on s'est dit, ben voilà, je devais être juste un petit peu moins en avance sur les autres. Et en fait, durant, je pense qu'il y a eu 2 ans entre le deuxième examen que j'ai fait, ça a commencé à empirer, ma lecture a commencé à empirer et tout. Et en fait, c'est une des amies à ma sœur qui est très, très, très dyslexique. Qui a parlé de sa logo. Donc, c'était une logo privée. Et du coup, ma maman, elle a pris contact et on a fait l'examen. Et heureusement, elle a dit heureusement qu'on vous détecte maintenant parce que c'est du lourd. Donc voilà, c'est comme ça. C'est par le biais d'une amie en fait qu'on a découvert que bah, j'étais dyslexique. Donc ouais, de rien.
Pierrette, Mélina, ce qui me frappe pour côtoyer une petite dyslexique, c'est que les enseignants n'ont pas forcément une formation dans ce domaine-là. Ce qui fait qu'ils sont démunis face à une situation comme celle que vous avez vécue et ils ne savent pas forcément quoi faire. Alors ça s'améliore très nettement. Mais heureusement avec les années, mais il y a encore beaucoup à faire. Et ensuite de ça, au niveau de votre passage d'examen à l'université, c'est dommage que la logopédiste ou une attestation médicale n'ait pas pu prouver, enfin attester de votre besoin de conditions indispensables. Parce que ça, ça existe aussi, cette possibilité. Mais les gens, enfin les personnes concernées ne sont pas forcément aidées à trouver à qui s'adresser pour obtenir tout ça.
Oui, ça c'est vrai. C'est totalement vrai. C'est vers la fin de mon uni qu'on m'a dit qu'il fallait qu'il y avait une femme justement qui s'occupait des différents handicaps pour toutes les sections. Donc on est allé la voir. Là, j'ai vraiment eu vraiment des bons aménagements. Simplement que le souci, c'était que ça ne suivait pas derrière, dans le sens que une fois, ils ont donné les aménagements à ma sœur. Une autre fois, le prof a agrandi le texte, donc j'étais très contente. Mais en fait, il n'a pas fait la mise en page. Il y avait des trous en plein milieu des phrases. Des fois, le mot, il était derrière. Enfin, et c'est là que je ne comprends pas. Enfin, la dame qui s'occupe de ça, je ne comprends pas qu'elle ne puisse pas briefer ou... En fait, où est-ce qu'il y a eu le couac dans la transmission d'informations? Mais c'est vrai qu'à l'Uni, j'ai eu des aménagements quand même. Mais ça dépendait des profs surtout. Et il me semble, mon copain m'a dit, mon copain qui est au fond de la salle, m'a dit que, parce que lui est à la HEP et qu'ils n'ont pas vraiment de cours... et ils devraient avoir, je pense, un cours pour tout ce qui est handicap, mais pas seulement dyslexie, pour la dyspraxie, pour les personnes en situation d'handicap en général, parce que c'est vrai qu'il y a énormément de troubles. Moi, j'aime pas dire handicap, mais de troubles. Et les profs, souvent, vous avez raison, sont démunis parce qu'ils savent pas. J'ai l'impression que les jeunes profs commencent à être plus formés. Alors peut-être qu'il y a des cours complémentaires qu'ils peuvent suivre, mais c'est vrai qu'il faudrait qu'il y ait ça qui soit mis en place, en tout cas un cours où on puisse vraiment leur expliquer un peu les bases de chaque trouble et un peu les besoins, parce que c'est vrai que ça manque un peu.
Merci. Huguette Junot, l'éditrice donc d'Amanda, notamment. Alors moi, j'arrive pas à croire ce que j'entends qu'on en soit encore là aujourd'hui. Et je pense qu'il faudrait vraiment prendre contact, écrire de manière officielle si possible aux universités romandes, en tout cas, et aux hautes études. Mais sauf erreur de ma part, il existe une association des dyslexiques, non? Il faudrait leur demander à eux, ça aura encore plus de poids, d'écrire une lettre à toutes les écoles pour expliquer ça, et puis éventuellement prendre contact avec les autres associations, malentendants, etc., et pour, à la limite, faire même une lettre commune. Il faut absolument que les universités, les autres études, les écoles, les hautes écoles d'études comprennent qu'il faut tenir compte de ça. Ça me paraît fou en 2020 qu'on en soit encore là, quoi. J'en crois pas mes oreilles.
C'est vrai. Alors.
Bonjour, Catherine Gauchat, je me présente, je suis non-voyante tout d'abord, je fais partie aussi de la Bibliothèque Sonore et je suis présidente de l'ADSR justement depuis le mois de novembre l'année passée et j'aimerais rebondir justement par rapport à la HEP, c'est très triste, j'ai rencontré le directeur de la HEP en tant que présidente et malheureusement on aboutit à des choses très tristes parce que bon, maintenant, par le 360 degrés, la dyscalculie a été acceptée comme trouble 10, alors qu'avant, ce n'était pas du tout accepté. Et quand j'ai rencontré le directeur de la HEP, il nous a textuellement dit que malheureusement, on ne pouvait pas rentrer en matière pour tout ce genre de choses. Je trouve ça très grave, je suis tout à fait d'accord avec vous, mais nous sommes en pourparlers pour justement... que les profs aient des informations. Ce sont que quelques petits modules, parce qu'ils font des modules, ce sont que des petits modules qu'ils ont 2 heures par par-ci, par-là, et ce ne sont même pas des cours obligatoires, ce sont juste des modules que les profs peuvent prendre. Nous, on aimerait bien, c'est clair, que l'association, on aimerait que ça devienne obligatoire aux profs d'avoir des cours là-dessus, mais on ne peut pas rentrer en matière pour l'instant, la HEP n'accepte pas.
Alors, voilà. Vous avez bien ce que je pense.
Voilà.
Ah. Bah,
volontiers.
Merci, bonjour. Gilbert Wursten, je suis enseignant spécialisé à la retraite, et puis j'ai été doyen pendant plus de 15 ans dans un établissement primaire lausannois. Alors c'est vrai qu'il n'y a pas d'obligation pour les enseignants de suivre une formation sur les troubles 10, mais ces formations sont disponibles, elles sont vraiment mises en avant et beaucoup d'enseignants les suivent. D'ailleurs, j'ai invité une collègue à venir ce matin, puis elle n'a pas pu venir, mais elle m'a dit qu'elle avait acheté votre livre, qu'elle s'était trouvé un cours sur la dyspraxie en compagnie de votre maman d'ailleurs. Donc voilà, c'est la preuve que ça se répand quand même. Moi, j'ai travaillé récemment 6 ans dans l'établissement de Crissier, où tous les élèves qui avaient des troubles 10 avaient des aménagements. Et au moment où on faisait les épreuves de référence, ces élèves étaient regroupés pour les passer à part des autres, avec du temps supplémentaire, avec l'agrandissement des textes et tout. Alors, après, chaque établissement a sa politique, tient plus ou moins compte. C'est vrai que ça devrait être obligatoire, je suis tout à fait d'accord avec ça, mais je pense qu'au niveau des directions d'établissement, il y a quand même beaucoup qui se fait, même si ce n'est pas suffisant, je le reconnais.
Mais c'est super, en tout cas, c'est super d'entendre ça, merci.
Alors, je pense que ce n'est pas le cas dans les écoles... haute école après, mm-hmm. Et puis même au secondaire, je sais que c'est déjà plus compliqué. Hein.
Mm-hmm. Mais c'est chouette de voir que les choses avancent quand même. Le micro arrive, monsieur.
Merci, Roger Cosandé. Il est vrai que tout va très lentement au niveau des aménagements. Nous avons aussi connu ça à l'époque et tout n'est pas résolu non plus. Moi, je pense que les démarches les plus efficaces, c'est de prendre la chose par le biais politique. Parce que c'est à ce niveau-là que les décisions se prennent. Mais avant de prendre des mesures au niveau politique, il faut aussi être conscient des traités, que la Suisse a signé. Par exemple, la Convention des Nations Unies pour les handicapés, vous avez aussi le CEDH, la Convention européenne des droits humains, qui peuvent aussi être mises en pratique. Moi, je pense que, en plus des démarches qui seront effectués par des organisations directement concernées, il faut aussi mettre le politique au courant des difficultés. Je connais personnellement fort bien la responsable de la jeunesse et de la formation au niveau du canton. Je suis sûr qu'elle serait disposée à entendre ce genre de revendications. Et il faudrait aussi, à mon avis, faire quelques informations au niveau des députés, puisque c'est eux, en définitive, qui définissent les lois, puisqu'au niveau de la scolarité, comme vous le savez, les lois sont d'abord cantonales avant d'être fédérales. Moi, je suis prêt, si vous le souhaitez, à arranger un rendez-vous avec la responsable du département de la jeunesse et de la formation. Je suis sûr qu'elle ne serait pas opposée à entendre certaines revendications.
Ça serait super. En tout cas, ça serait vraiment, ça serait vraiment bien. Ça serait super.
Il y a juste quelqu'un avant. Oui.
Oui, je suis Gabriela Auriol, je suis la maman de Amanda. Ce que vous dites est vrai, il faudrait que ce soit quelque chose de... Enfin, que ça soit pris en charge par une entité beaucoup plus grande, parce que là, chaque établissement fait sa propre loi, en fait. Moi, j'ai fait des remplacements dans beaucoup d'établissements, parce que je fais des longs remplacements. Et dans certains établissements, c'était vraiment très bien organisé. Et dans d'autres, les profs, même le doyen me disait « Ouais, mais on leur donne un quart d'heure et ils l'utilisent pas. » Effectivement, on leur donne un quart d'heure et ils l'utilisent pas. Parce que ce quart d'heure, il leur permet de se calmer, en fait. Rien que le fait de savoir qu'ils ont un quart d'heure de plus pour pouvoir... Parce que quand ils commencent leur exercice, ils voient que leurs petits camarades, ils ont déjà lu toutes les consignes, ils sont déjà au troisième exercice et eux, ils sont au premier. Donc ça les stresse, ils commencent à lire à l'envers et ils se plantent. En sachant qu'ils ont ce quart d'heure de plus, ça leur permet de dire, bon ben, j'ai le temps, donc ils se concentrent sur leurs feuilles. Mais voilà, c'est ce que j'ai dû expliquer au doyen, mais c'est ça. Il y a beaucoup, enfin, le problème, c'est que c'est pas encore vraiment rentré dans les mentalités. Il y a des profs qui disent, ouais, mais maintenant, ils sont tous dyslexiques. voilà. Enfin, c'est très difficile d'avoir vraiment l'écoute. Et peut-être que si c'était à un niveau effectivement politique, parce que déjà, la nouvelle chef, là, je me souviens plus comment ça s'appelle. Amarelle, non? Oui, Amarelle. Oui, voilà. Elle demande que les handicaps soient intégrés à l'école. D'accord. Mais alors, à la HEP, il faut aussi que les profs soient formés pour ça. C'est ça. La HEP est très, très réfractaire à tous ces problèmes 10 et je comprends pas pourquoi. Parce que les premiers concernés, c'est les enseignants. Voilà. Merci.
Alors, ce que j'aimerais juste dire par rapport justement à Madame Cécile Amarelle, l'association a voulu la rencontrer par rapport à tous ces troubles 10 pour lui expliquer comment on fonctionnait et quel était vraiment l'apprentissage et ce que c'était les troubles 10. Nous lui avons écrit une lettre. Nous n'avons pas reçu aucune réponse par rapport à ça. La seule chose, comme par hasard, nous apprenons que, parce qu'on avait beaucoup aussi mentionné la dyscalculie, puisqu'elle n'était pas du tout prise en charge par les logos, et comme par hasard, quelques mois plus tard, on apprend que la dyscalculie est prise en charge par les logos. Heureusement, tant mieux, puisque j'ai un fils qui est dyscalculique, mais qui a fini l'école, mais que ça a été une scolarité hyper compliquée. Bravo Amanda, vous avez réussi. Mon fils n'a malheureusement pas pu réussir, parce que c'était vraiment pour lui très très compliqué. Parce qu'il était aussi dyspraxique visio-spatiale. Et je peux vous dire qu'avec les profs, c'était hyper compliqué. Donc, c'est vrai que si on pouvait mettre des choses en place et expliquer aux professeurs, mais très souvent, malheureusement, les profs ont de la peine à comprendre ce que c'est, puisque ce n'est pas appris à la HEP, ce n'est pas discuté à la HEP. Et souvent, l'association, on est malvenu parce qu'on ne peut on ne peut pas exprimer exactement ce qu'on aimerait leur dire et leur, enfin, essayer de soutenir les élèves pour que ça se passe beaucoup mieux. J'entends beaucoup de parents maintenant qui disent que c'est très compliqué, même encore à l'heure actuelle. Voilà, alors si Roger, tu peux nous organiser ça, pourquoi pas, volontiers, avec plaisir.
Merci. Moi, si je peux rebondir aussi, j'ai une amie enseignante qui a fait énormément d'impro. Moi, j'en ai fait 9 ans, improvisation théâtrale. Et elle avait une classe à l'école. Et en fait, elle m'a demandé si je pouvais prendre 2 heures de temps, parce qu'il y avait des cours spéciaux où ils faisaient interagir des extras, ça s'appelle, les gens qui viennent, mais externes à l'école, pour que je puisse expliquer un peu ce qu'était la dyslexie, la dysorthographie, vu que... J'en souffre, j'aime pas dire ça, mais vu que je suis atteinte de ça. Et ça a été, en fait, comme l'éducation sexuelle, quelqu'un qui vient expliquer ça aux enfants, ben là, c'était les troubles 10 dont je suis atteinte et Et de là est découlé que en fait il y a plein d'enfants qui disaient ah bah alors moi enfin moi je j'ai de l'hyperactivité et c'est vrai que c'est dur pour moi. Enfin il y a eu un vrai échange entre les élèves. Il y a des profs qui sont venus tout au long de ces deux heures qui m'étaient consacrées pour l'expliquer, qui ont posé des questions et en fait ça a donné un échange. Même les enfants ils ont commencé à comprendre ce qui enfin les réels besoins de leurs camarades. Et c'était vraiment génial et magique. Vraiment, c'est les enfants aussi, parce que les profs ont dit... Moi, j'ai eu de la chance, j'ai eu vraiment des profs super à part ça. À part quelques-uns qui, voilà, c'était plus compliqué. Mais en général, j'ai eu des profs très ouverts, qu'ils soient plus âgés ou plus jeunes. Et moi, ce qui était très dur, c'était aussi les camarades qui disaient que je faisais exprès ou que je mentais sur le fait que j'avais des difficultés et tout. Et j'ai trouvé génial de pouvoir expliquer à une classe tout ça, parce qu'ils étaient hyper réceptifs. C'est la première fois qu'ils étaient aussi curieux. Il n'y a pas eu besoin de leur dire « chut ». Enfin, tout le monde était hyper réceptif, même les enfants qui n'avaient pas de troubles apparents. Et ceux qui avaient des troubles, ils osaient en parler, en fait. Et c'était génial. Et du coup, eux, ils disaient « oui, alors on va aider ». Ils trouvaient des initiatives par eux-mêmes de qu'est-ce qu'ils pouvaient aider leurs camarades. Et je pense que ça serait génial d'instaurer, comme pour l'éducation sexuelle, 2 heures par classe où on explique un peu les troubles et où les enfants qui ont tous ces troubles, puissent avoir une fois la parole et qu'on les entende. Parce que c'est vrai qu'il y a le côté camarade de classe qui est difficile, vraiment. Moi, ça a été plus dur qu'avec les profs. Souvent, parce que les profs, bon, il y a ma maman qui était derrière aussi, donc peut-être que ça aidait, mais relationnel avec les camarades, moi, ça a été, j'ai eu des moments assez difficiles. Heureusement, j'avais toujours des amis qui me soutenaient, dont 2 qui sont là, que je connais depuis plus de 10 ans. Et c'est vrai que moi, je trouve que ça serait important que les enfants aussi soient au courant de pourquoi il a 30 minutes de plus, pas qu'ils pensent que, voilà, c'est injuste. Ou pourquoi, moi je me souviens qu'au gymnase, j'avais des feuilles A3 et les élèves à côté de moi, ils rigolaient. Ils disaient, mais pourquoi elle a des feuilles aussi grandes? Mais personne ne les avait mis au courant. Et c'est vrai que leur réaction, on ne peut pas non plus, dans un sens, les blâmer parce qu'ils comprennent, ils savent pas ce que c'est, on ne leur explique pas non plus. Donc je trouvais très intelligent de la part de cette prof de me proposer de leur faire... Voilà, une leçon là-dessus, ouais. J'aurais fait faire des exercices dans la peau d'un dyslexique, des problèmes de maths à résoudre avec des lettres complètement dans le désordre. Enfin, ils ont adoré aussi parce qu'on les faisait participer. Et je trouverais génial qu'il puisse y avoir quelque chose comme ça de temps en temps dans les classes, quoi. Qu'on puisse sensibiliser pas seulement les profs, mais les élèves qui côtoient les personnes qui vivent ces troubles.
Ben, je vais rebondir sur ce que vous dites. Je pense que ce qui manque peut-être, c'est de la visibilité de finalement, les dyslexiques ont besoin qu'on sache le problème qu'ils ont. Ils sont finalement assez nombreux, hein. Si on compte, ça fait à peu près 2 personnes par classe. Je pense qu'ils sont de loin pas identifiés autant. Et puis, je pense qu'on a surtout besoin qu'on sache ce que c'est, que comment finalement, on puisse être soutenu dans ce cadre-là. Et puis finalement aussi, je pense un des problèmes de la dyslexie, c'est que il y a plein de sortes de dyslexies différentes, et c'est ce qui fait aussi que c'est pas toujours bien compris. Et ça touche, à mon avis, aussi la question au niveau de l'enseignement, que je trouve un peu, des fois très, je m'excuse avec les enseignants qui sont dans la salle, mais un peu carré, qu'elle a des fois davantage pour trier que pour essayer de pousser chacun dans ce qu'il peut faire. Et ça touche sur la différence entre chaque enfant.
Oui, c'est exactement ça. D'ailleurs, ça me fait penser à ce qu'a dit ma maman, dans le sens qu'il y a beaucoup d'enseignants qui disent que tout le monde maintenant est dyslexique. Mais en fait, justement, ils ne sont pas formés pour voir vraiment... Parce qu'un dyslexique ne fait pas les mêmes fautes qu'un autre enfant. Maintenant, avec la technologie et tout, le fait que les enfants lisent moins, j'ai l'impression que beaucoup d'enfants maintenant font beaucoup de fautes d'orthographe avec les SMS. Et c'est vrai que les dyslexiques, dysorthographiques, on se perd dans cette masse. Et c'est encore plus dur maintenant de vraiment détecter, j'ai l'impression, dans les classes, qui est vraiment et qui n'est pas vraiment. Et mais un dyslexique ne fait pas les mêmes fautes. Elles sont logiques. Enfin, elles sont logiques pour moi. Elles sont logiques parce que je suis dyslexique. Mais il y a des orthographes. D'ailleurs, je dis dans mon livre que je sais pas. Du coup, je l'écris 3 fois différemment pour être sûre d'en avoir une juste. Et enfin, on fait des fautes d'orthographe très caractéristiques. Et c'est vrai qu'un enseignant qui n'est pas formé ou qui ne connaît pas bien le sujet, eh ben, il n'arriverait pas. Et moi-même, si je suis enseignante, que je ne connais pas la dyslexie, je n'arriverais pas à savoir qui est 10 et qui n'est pas 10 maintenant, honnêtement. Donc, c'est vrai que c'est un manque de... Enfin, il faudrait, voilà, c'est un manque de connaissances. Alors, je suis tout à fait d'accord.
Françoise Kern, un tout petit problème. Si vous avez un alphabet écrit en minuscule, je comprends la comment est-ce qu'il faut dire la confusion entre P et Q, mais si vous avez l'alphabet en majuscule, ça n'est plus le même problème. Le P et le Q ne s'écrivent plus comme en miroir. Hein. Est-ce que ça passe mieux avec un alphabet majuscule ou bien c'est pour vous c'est pareil?
Alors pour moi c'est plus dur les majuscules parce que parce que c'est tout des lignes droites, en fait. Donc, les lettres qui sont rondes, il n'y a aucun problème. Mais c'est toutes les autres le souci, parce que justement, c'est très... on dirait, quand je vois des lettres en majuscules, on dirait un code barre pour moi. Ça, c'est un peu comme un code barre, en fait. Mais oui, le P et le Q sont très différents. Donc, les difficultés changent. C'est ça qui est terrible. C'est que suivant la façon... Par exemple... J'ai fait hébreu à l'Uni, c'est assez... Et je peux vous dire que c'est plus facile que le français pour moi, parce que c'est des dessins, et les voyelles, il n'y a pas besoin de les mettre dans le mot. Et c'est fou de se dire que suivant les choses qui changent pour les lettres, ben, nos difficultés changent ou bien s'amoindrissent. Oui, s'amoindrissent. Et... D'ailleurs, il y a aussi, j'ai eu aussi des personnes qui m'ont dit que ça pouvait venir de la vue. Alors, certaines dyslexies, oui, viennent de la vue et on peut les guérir. C'est comme certains ont eu un traumatisme et puis de ce traumatisme sont devenus dyslexiques, mais c'est des dyslexies qu'on peut guérir. Moi, par exemple, on m'a fait faire 2 fois l'examen de la vue pour être sûr que ça n'avait pas à voir avec un problème d'yeux. Et il s'est avéré que ça n'avait pas à voir avec un problème de la vue. Mais les personnes qui m'ont dit que oui, ça avait à voir avec un problème de la vue, oui, certaines dyslexies, effectivement, peuvent se guérir par là, mais pas toutes. Et c'est ça le problème. Enfin, comme vous disiez, monsieur, elles sont tellement différentes des dyslexies, il y a tellement d'aménagements différents, que c'est vrai qu'en même temps, un prof... Si, par exemple, il y a 2 dyslexiques qui demandent 2 choses différentes, il va se retrouver perdu parce qu'il n'a pas la formation ou parce que... Et c'est vrai qu'on les blâme, mais en même temps, je me dis, certains font vraiment de leur mieux et il ne faudrait pas mettre tous les profs non plus dans le même panier parce que certains font vraiment de leur mieux. Puis des fois, c'est simplement qu'ils ne peuvent pas faire plus parce qu'on ne leur permet pas ou parce que... Voilà, ils n'ont pas été assez formés, mais... du coup, je sais plus où j'en ai. Ça aussi, je me perds dans ma tête. Mais voilà.
Moi, j'ai aussi une question. Est-ce que quand les enfants sont petits, à partir de quel âge est-ce qu'on peut avoir un diagnostic un peu fiable? Parce que c'est difficile chez un petit. Et je me dis que est-ce que plutôt c'est compris la dyslexie par les enseignants, mieux on arrive à former le dyslexique à se débrouiller avec sa dyslexie.
Oui, parce que moi, je ne sais pas exactement vers quel âge. Je sais que la dyspraxie, c'est assez tôt, on peut la découvrir, mais la dyslexie...
Alors, c'est vrai que le plus tôt serait le mieux, mais en général, c'est au début de la scolarité, c'est-à-dire à partir de la 3e actuelle Armos, 3e, 4e, dès que l'enfant commence à lire et qu'on voit que c'est des grosses difficultés, un bilan serait bien d'une locopédiste. parce qu'il peut avoir plusieurs choses, en plus de la dyslexie, il peut avoir aussi la dyspraxie, vu que les troubles sont multiples souvent. Donc, en général, depuis mon fils, on a commencé à faire les diagnostics à partir de on voulait la troisième, mais les profs n'ont pas accepté. On a dû beaucoup se battre. Donc, on n'a pu le faire qu'à partir de la quatrième. Mais plus tôt c'est fait, mieux c'est, parce que ben on peut le rattraper le plus vite possible, quoi. Voilà.
Merci.
Marie-Claude Dubois, je voulais vous dire que j'ai eu plus de chance que vous parce que j'ai été diagnostiquée à l'école enfantine, parce que j'écrivais complètement de droite à gauche. J'avais un frère aîné et je voulais faire comme lui. Et ma mère s'est rendue compte que j'écrivais dans le faux sens. Elle est allée voir la maîtresse en lui disant, écoutez, je suis un peu surprise, est-ce qu'il y a un problème? Ma fille écrit dans l'autre sens. La maîtresse lui a répondu, ah, mais vous voulez en faire un sato? Puis ma mère a dit non, mais on écrit de gauche à droite et pas de droite à gauche. Donc, heureusement, elle en a à l'époque parlé à mon ophtalmologue, parce que j'avais déjà des problèmes de vue, qui a dit, oh, mais ça c'est une énorme dyslexie, il faut tout de suite la sortir de l'école, la mettre aux hirondelles, qu'elle soit prise en charge. Et j'ai pu faire mes études, devenir infirmière aussi
Bravo.
Grâce à ça. Et je suis très reconnaissante à ma maman d'avoir eu le réflexe de ne pas écouter ce qu'on lui disait comme ça. Mais donc, il y a 60 ans en arrière, c'était déjà possible, mais il fallait des gens qui soient au courant. Elle n'aurait rien dit à l'ophtalmologue, j'aurais galéré comme vous, quoi.
Oui, bah, bravo en tout cas. Joli parcours.
Bonjour, je suis Emmanuelle Jacquat. J'ai la même qualité que vous, parce que c'est une qualité d'être dyslexique. Je me rends compte de plus en plus. J'avais à peu près votre âge, 11 ans aussi. Il paraît que c'est les meilleurs, paraît-il. Non, mais je vous remerciais pour ce que vous avez dit, votre courage. En entendant un peu toutes les personnes, moi, ce qui m'a impressionnée dans ma vie, c'est l'excuse. J'ai eu plein de gens qui me disaient « Ah, mais je suis pas bon en orthographe, je suis dyslexique ». Puis mon premier réflexe, c'était « Ah, chouette, il est comme moi !» Et en fait, non, c'est juste qu'il n'est pas bon en orthographe. Mais c'est une bonne excuse. Une prof, une fois, m'avait aussi dit « Ouais, mais t'es malade. » C'est sûr, on prend des médicaments, on est guéri. Donc je trouve que c'est aussi tous ces appréhensions, ces clichés des personnes. Et je suis pasteur, hein, et je vois des catéchumènes où c'est pareil. Une me disait « J'ai l'ordinateur. » Et mes copains se moquent de moi, et la maîtresse ne veut pas. J'ai dit, mais tu veux pas proposer un exposé là-dessus? Elle dit, non, bah, j'ai peur que tu sois encore plus discriminée. Je disais, mais poser des mots, quoi. Moi, c'est ça qui me choque, au-delà de, je trouve génial les aménagements. Moi, j'ai pas eu ça, mais je trouve juste super. Mais comment on mette les mots, qu'on explique ce que c'est? Et je voulais juste encore vous dire que je suis d'accord avec vous. L'hébreu, c'est bien plus facile quand on est dyslexique.
Merci.
Je savais faire l'alphabet à l'endroit et je l'ai même su à l'envers. Je le sais toujours à l'envers. Donc, il est facile.
Oui.
Il va repartir là-bas. Bonjour, je m'appelle Romane.
Bonjour.
Et par rapport à la question de l'âge à laquelle on peut le diagnostiquer, je sais pas, peut-être que si on le diagnostique plus vite, on arrive mieux à, je sais pas, à remettre l'élève sur le droit chemin. Je suis pas sûre qu'on puisse le corriger, il me semble pas. Peut-être qu'on peut s'améliorer, mais je pense que plus tôt on le diagnostique et plus l'impact psychologique sur l'enfant sera grand. Parce que c'est surtout ça. Enfin, moi, avant qu'on me diagnostique, je sais pas, mais tous les messages qui venaient de l'extérieur, c'était, ok, tu fais pas d'efforts. Enfin. On me l'a jamais dit comme ça, mais surtout mon enseignante, bon, elle n'était pas très compétente, mais on m'a souvent dit que j'étais juste trop nulle et que voilà. Et il y a eu même un moment où je détestais aller à l'école et c'est à ce moment-là qu'on m'a emmenée chez l'orthophonie. Donc voilà, je pense que dès le moment où on se rend compte qu'on est dyslexique, ben en fait, c'est pas de notre faute et il faut apprendre à vivre avec et on le vit mieux, je trouve.
Ouais,
voilà.
Je suis d'accord.
Et avant ça, j'avais encore une autre question. Par rapport à vos mesures, vous aviez dit, c'est juste pour me faire une idée, je sais que pas selon les dyslexies, on a des mesures différentes, mais surtout au niveau du temps, vous aviez combien de temps environ?
Moi, j'avais une heure de plus, normalement.
Ok, et ça changeait selon la durée du test de base ? Ok, d'accord.
Oui. Bon, s'il y avait 15 minutes de test, on ne mettait pas une heure. Oui. Mais ouais, on regardait en fonction. Mais souvent, à l'Uni, c'est 2-3 heures. Donc, on me rajoutait une heure. Et souvent, je n'avais pas besoin de l'utiliser parce que j'étais détendue. Et du coup, c'est ça allait tout seul. Mais...
D'accord. Ouais. Et par rapport aux autres mesures, vous aviez, par exemple, vous avez dit par rapport à la taille de l'écriture, mais il y avait une écriture qui facilitait ou...
Ouais. Il y avait la Comics 100 MS, la Futura, c'est la Futura, non, Century Gothic, je crois, je sais plus, celle de mon livre, mais je sais plus quelle écriture on a utilisé. Oui, oui, c'est vrai. C'est parce que moi, ma difficulté la plus grosse, c'est le A et le E dans la police. Et du coup, j'ai cherché des écritures, en fait, où le A et le E étaient différents parce que dans la New Times Roman, c'est ça, hein, le A, en fait, c'est un E qui fait une pièce droite pour moi. Donc, donc je n'arrivais pas à savoir quand c'était un A et un E. Voilà, moi, c'est ça ma difficulté la plus grosse. Donc, le Comic 100 MS était très, très facile pour moi. Century Gothic, je crois que c'est. Et puis, sinon, quand on pouvait, le prof ne pouvait pas changer forcément l'écriture, d'espacer les lettres ou les mots, ça aide aussi. Mais la nouvelle écriture là, qu'ils ont fait pour les 10, elle est horrible. Je ne sais pas ce que vous en pensez. Je ne sais pas si vous l'avez déjà vue, mais genre, c'est des lettres qui ont des ombres. Je me suis dit, mais c'est pour torturer ou... Je ne comprenais pas pourquoi ils disent que c'est fait pour les dyslexiques. Moi, dès que je la vois, elle me donne mal à la tête. Donc, je ne sais pas si ça aide. Si quelqu'un qui est dyslexique dans la salle trouve qu'elle est agréable, mais il faudra la bannir. Je sais pas qui l'a inventé, mais en tout cas, je la trouve extrêmement difficile. Elle écrit en gras, il y a des espèces d'ombres. Enfin, et puis sinon, je fais partie de plusieurs groupes sur Facebook de dyslexiques en France, en Suisse, et il y avait eu un post qui disait quelles écritures étaient le plus simples pour un dys, et il y en a beaucoup qui ont dit comme moi la Comic 100 MS. Et c'est vrai que il y a aussi, j'ai des amis qui m'ont dit qu'à l'école, des fois, les profs changeaient pour cette écriture. Et même les personnes qui ne souffraient pas de dyslexie, eh ben, ça leur changeait rien, en fait, que le test soit écrit dans cette police. C'est pour ça que ça a été une des choses les plus dures aux examens à changer, c'est la police. Et ça me rendait folle parce que les autres élèves, ça leur changeait rien que ça soit écrit dans une autre police. Mmh. Même, c'était plus agréable, certains me disaient. Donc, ouais. Donc, la Comics 100 MS, puis la Century Gothic, si je ne me trompe pas.
D'accord, merci beaucoup.
Oui. J'aimerais encore juste soulever un problème que peut-être M. Cosandet pourra partager avec Mme Amarel. C'est le fait que lorsqu'on reconnaît la dyslexie d'un enfant et qu'on admet qu'il a besoin d'aide à côté de lui à l'école, et aussi pour le bien des enseignants, parce que ça peut être très compliqué suivant le nombre d'enfants qui ont des difficultés dans la classe. Il ne faut pas oublier ça, parce que intégrer tous les enfants, ok, mais si on n'a pas à côté des gens formés qui peuvent être là et aider les enfants, ben, ça pose problème aussi. Donc, il y a une question de formation aussi d'enseignants spécialisés qui serait nécessaire.
Vous savez, mon rêve, c'est d'être enseignante spécialisée et j'ai écrit à la HEP en disant que j'avais un parcours atypique, que j'avais écrit un livre sur la dyslexie, que j'avais fait un bachelor en lettres. Je suis fière de mon bachelor en lettres. Et il m'a répondu, et je lui ai demandé un rendez-vous pour savoir s'il y avait des moyens d'accéder à ce master, même si j'avais fait lettres, si on pouvait en discuter. Et il ne m'a pas donné de rendez-vous, il m'a dit « Ah non ». De toute façon, votre cas, on ne peut pas en discuter. Du coup, j'ai pas pu rencontrer le directeur ou le doyen ou pour en discuter parce que vraiment, c'est quelque chose. Je fais des appuis extrascolaires et j'aide vraiment. Je vois qu'il y a des résultats avec les enfants 10. J'ai eu des enfants qui avaient des troubles d'attention, des dyslexiques, 10 non, au potentiel. Enfin, j'ai eu plusieurs élèves qui avaient plusieurs troubles et à chaque fois j'ai remarqué qu'il y a des résultats, que je pouvais leur apporter une aide avec ma propre expérience. Mais j'ai jamais pu discuter avec le directeur pour savoir s'il y avait un moyen, même s'il y avait une formation que je devais préparer avant de pouvoir faire ce master, j'aurais été partante parce que c'est vraiment quelque chose qui me fascine. J'aimerais vraiment être enseignante spécialisée. Et on ne m'a pas donné l'opportunité de m'expliquer. Et l'examen d'ergothérapie, c'était sur des ordinateurs à l'appel. Ils choisissent comme ça, c'est des machines qui choisissent. Et je me dis, c'est tellement dommage parce que si c'était quelqu'un qui nous met en entretien, bon, maintenant, il y a énormément de candidats, donc c'est compliqué. Mais si c'est quelqu'un qui voit la personne, je me suis dit, j'aurais pu avoir mes chances d'être ergo et de pouvoir après faire un master en enseignement spécialisé. Mais voilà, ces portes se sont fermées. C'est vrai que ça, c'est un échec assez gros que qui me pèse quand même, parce que c'est vraiment quelque chose qui me passionne et je sais que je suis capable de pouvoir aider ces enfants. Et voilà.
C'est à nouveau Roger Cosandet. J'ai deux petites choses à vous raconter. Tout d'abord, une chose finalement assez amusante. J'ai un ami au Tessin qui a depuis son enfance des problèmes de vue. Il s'appelle Manuele Bertoli. Il a voulu fréquenter l'école normale. On lui a dit non, c'est pas possible, vous pouvez pas être instituteur, vous ne voyez pas assez. Bon, il a fait finalement des études universitaires, il a été actif en politique, et maintenant ce qui est très drôle, c'est que c'est le chef de l'instruction publique du canton du Tessin, donc le chef de tous les instituteurs. Il aime bien raconter ça et je trouve ça amusant. Maintenant j'ai dit que ce serait bien de prendre contact, des contacts politiques, mais il faut aussi prendre des contacts avec des députés, parce que il faut une certaine pression. Si on contacte uniquement la responsable du département, je crains que ça ne suffise pas. Donc moi, je vais déjà contacter différents chefs de groupe au Grand Conseil pour savoir qui est prêt à nous donner un coup de main, et je vous recontacterai dès que j'aurai des réponses. Maintenant, le gros problème qui se pose aussi au niveau de l'instruction publique, c'est qu'on a décrété un jour qu'il fallait intégrer les handicapés. Mais ce terme est tellement vague, tellement stupide, ça ne veut rien dire, les handicapés. Il y a différentes sortes de troubles, de circonstances qui font que dans certaines circonstances, on peut être handicapé. Mais une personne handicapée, ça ne veut strictement rien dire. C'est une espèce de fourre-tout qui rend service à tout le monde. Mais il n'y a pas de solution unique. Et c'est ça qui est difficile à faire comprendre. C'est que chaque personne qui a une particularité physique ou psychique ou sensorielle a des besoins différents. C'est pas quelqu'un qu'on peut mettre dans une espèce de pot commun, et c'est là où nous devons continuer à œuvrer pour faire comprendre ces problèmes-là.
Je suis totalement d'accord. D'ailleurs, au Canada, j'adore ce terme, ils appellent les handicapés les autrement capables, et je trouve ça tellement joli, d'ailleurs, que je trouve que c'est génial d'avoir inventé ce terme. C'est vraiment caractéristique. C'est vrai qu'on ne peut pas faire les choses comme tout le monde, mais on peut les faire différemment. Et d'ailleurs, je trouve que c'est très enrichissant pour les autres aussi d'avoir quelqu'un qui fonctionne différemment. Ça peut apporter énormément. Du coup, j'aime beaucoup ce terme, autrement capable.
Voilà. Est-ce qu'il y aurait encore des questions? Sinon, on peut... Oui, Madame Leonardi.
Est-ce que vous avez eu des contacts avec des élèves musiciens qui avaient des problèmes avec la lecture du solfège?
Non, pas du tout.
Non.
Non.
Merci. Je pense qu'on va pouvoir poursuivre ces discussions à l'apéro. Je voudrais vous remercier chaleureusement.
Merci à vous beaucoup.
Et j'ai trouvé vraiment... Oui.
Thank you.